Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous partons au Canada en pleine nature. Nous ferons aussi un voyage dans le temps au XVIe siècle et nous verrons si nous devons devenir narcissiques. Reportage exceptionnel aujourd'hui au cœur de la nature québécoise, au milieu des bêtes, avec l'auteur Lise Tremblay. Nous l'avons rencontré à l'écomuséum de Sainte-Anne-de-Bellevue. Entretien en déambulation autour des relations entre les hommes et les animaux. Parfois, les hommes se conduisent comme des animaux. L'écrivain à succès Jean Tellet analyse les comportements humains dans les temps anciens. Il revient en ce début 2018 avec un roman sur une étrange épidémie. En 1518, les citoyens de la ville de Strasbourg se sont mis à danser dans la rue jusqu'à l'épuisement mortel. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour Emmanuel.
Cette histoire, ce n'est pas tout à fait une légende.
Ah, c'est pas du tout une légende.
Du tout.
Non, oui. non, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Le 12 juillet 1518, vers midi, une femme est sortie dans la rue et s'est mise à danser. Et il y a eu un problème, c'est que sa danse est devenue contagieuse.
Exactement. Tout le monde s'est mis à danser. Ça a été un vrai souci. On va raconter cette histoire incroyable avec, évidemment, votre écriture. Parfois, un petit peu...
On verra. Un petit peu quoi ?
Un petit peu. Et puis, nous recevrons le philosophe Fabrice Midal, qui ose, lui, nous inciter à devenir narcissique. Vous le verrez, sa définition du narcissisme va vous surprendre, mais aussi vous faire réagir.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et un mot avant de dérouler ce programme, une pensée pour l'écrivain Mathieu Riboulet, mort cette semaine à l'âge de 57 ans. Auteur de la maison d'édition Verdier, son œuvre délicate portait un regard aiguisé sur la condition humaine et sur notre société. On l'avait reçu en 2015 pour Lisière du corps, un récit sur le corps et le désir, sur les conseils d'ailleurs de Lydie Salvert, qui avait même lu un extrait de son livre sur notre antenne. Mathieu Riboulet portait un regard singulier sur le désir, la sensualité et le plaisir.
Je pense pas que le plaisir soit jamais facile.
Pourquoi ? Voilà.
Simplement parce que c'est une construction très savante qui met en jeu autant le corps que la pensée, que l'émotion, et que cette architecture, en effet, est extrêmement savante. Il faut y faire très attention parce qu'elle est toujours sur le point de s'effondrer, toujours potentiellement à reconstruire. Donc là, alors, je pense que le terme plaisir facile, je le récuse totalement, en tout cas.
Oui.
Même si le plaisir est immédiat, même si le contact est facile, même si, en effet, dans des lieux de rencontre, il peut s'établir très très vite, c'est pas pour autant qu'il est facile parce que chaque point de son déroulé, il est menacé, soit d'épanouissement, soit d'écroulement.
Mathieu Riboulet, à qui on pense, décédé donc cette semaine à l'âge de 57 ans. Quatre libraires sont en multiplex avec nous, comme chaque semaine, pour la France. C'est notre libraire de Martinique qui est avec nous cette semaine. Bonjour Anne-Rosine Vosa.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Le Papillon Bleu à Fort-de-France. Alors, quelle est l'ambiance à Fort-de-France ? Quel temps fait-il en ce moment ? Tiens, donner envie aux Québécois, aux Suisses, aux Belges, aux Français.
Il fait très beau, il fait chaud, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de vent aussi. Ce n'est pas un hasard si c'est la saison touristique, c'est la haute saison en ce moment. Donc, il y a beaucoup de touristes qui viennent prendre du soleil sans trop de chaleur et avec une mer d'un bleu, mais magnifique.
Et ils vont acheter des livres dans votre librairie, Le Papillon Bleu, hein, qui a été créé il y a quelques mois, presque deux ans, c'est ça. On vous avait soutenu d'ailleurs à l'ouverture de cette librairie. Oui. On est ravis de vous retrouver et nous pensons évidemment à tous les auditeurs qui nous écoutent très nombreux. Merci à vous d'être là. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes sous la neige hein, au Canada, à 3600 km pourtant de la Martinique. C'est pas très loin, mais ce n'est pas même temps. Vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. En Suisse, Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève est avec nous cette semaine. Bonjour Claire.
Alors, bonjour Emmanuel. Ni de neige, ni de froid. Hein. C'est un beau soleil.
Oui, pour l'instant. Et enfin, Déborah Damblon est là. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne, en Belgique donc. Merci à tous les quatre. Vous allez bien sûr intervenir tout au long de l'émission. Bonjour Fabrice Midal.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et auteur, Fabrice. Vous publiez un livre sur le narcissisme et contre toute attente, vous nous conseillez de devenir narcissique. On décryptera ensemble tout à l'heure, mais on commence toujours cette émission par une une anecdote personnelle. C'est vous qui en avez la charge, puisque Jean Tellet a déjà raconté plein d'histoires chez nous. Que voulez-vous transmettre, Fabrice ?
Je voulais raconter l'histoire quand je m'occupais d'un de mes amis qui était très malade, qui avait une profonde dépression, et je me sentais pris par ça, avec le sentiment de ne pas en faire assez. Et j'étais dîné avec un vieil ami qui était un grand thérapeute, quelqu'un d'absolument exceptionnel. Il m'a dit à un moment, il faut sauver ta peau. Et le moment où je me suis dit, je n'ai pas le droit de sauver ma peau, ça a été un déclic. Mmh. Et au fond, là, mon livre sur le narcissisme est né
de cette histoire.
De cette histoire.
Vous la racontez dans le livre d'ailleurs. Hein.
Et de ce moment où sauver votre peau, devenir narcissique, c'est vraiment une sorte de cri du cœur qui a fait basculer mon existence.
Ouais. On va raconter tout cela parce que c'est assez complexe et finalement assez simple, parce qu'on peut tous participer à cela, on peut tous devenir narcissique d'une certaine façon et sauver notre peau. Merci beaucoup Fabrice pour cette histoire. Fabrice Midal est dans la librairie cette semaine.
Emmanuel Kérad, la librairie francophone.
Dansons, dansons tout autour de la terre. Dansons, dansons, de la montagne à la mer. Gigotons tous ensemble avant qu'il ne soit trop tard.
Jean Tellet est avec nous pour son nouveau roman.
C'est Pigalle, qu'on vient d'entendre, Adji Lazzaro.
Ouais, exact, vous l'avez choisi.
Ouais, non, je n'avais pas choisi celle-là, mais je l'aime beaucoup.
Ah bah si, on m'a dit que vous aviez choisi celle-là.
Non, j'avais choisi La Maison Tellier.
Et Pigalle.
J'avais dit Pigalle. Ah bon.
Oui, et autre chose qu'on écoutera tout à l'heure.
Mais c'est bien ça. Dansons, dansons.
Alors pourquoi dansons, dansons ? Parce que vous publiez un roman désopilant et sinistre à la fois. Le 12 juillet 1518, les citoyens de Strasbourg sont affamés. Certains jettent même leur bébé dans la rivière.
Ouais, depuis le pont du Corbeau. Et pire, un pont qui existe toujours à Strasbourg.
Les mangent.
Ouais.
La ville est comme ça, entre l'état de choc et le désespoir absolu, c'est le cataclysme.
Ouais.
Et un jour, il y a cette femme qui jette son enfant dans la rivière, Eneline Trofea, qui sort de sa maison après avoir perdu son enfant, et soudainement, elle se met à danser.
Exactement, elle se met à danser, et son voisin d'en face, et tout ça se passe rue du Jeu des Enfants, c'est un nom de rue génial, et qui existe aussi toujours à Strasbourg, et son voisin d'en face est tonnelier, il est avec sa femme, et ils sont de chaque côté d'un plat où il y a les restes d'une carcasse de petite fille, et Attal, la femme, la mère, avec un éclat de tibia, elle retire un petit bout de chair de sa fille entre deux dents.
Non, mais
son mari la regarde, lui dit « Mais où on en est arrivé ?»
Ouais.
Et là, il va sur le pas de la porte et il voit Eneline Trofea qui danse toute seule dans la rue. Il la rejoint, il se met à danser avec elle. Et d'autres gens qui étaient dans des situations catastrophiques comme ces deux couples s'approchent et se sont mis à danser. Ça a d'abord été la rue, puis le quartier, puis dans tout Strasbourg.
Mais qu'est-ce que vous avez inventé dans cette histoire, Jean ?
Les histoires d'amour, parce que j'avais envie de raconter ces deux couples, le couple Trofea et le couple Guebwiller.
Mais on mangeait ses enfants, vraiment ?
Mais oui, oui, bien sûr. Et à un moment, il y a...
Bien sûr.
Oui. Non, mais il n'y avait plus rien. Non,
mais d'accord, manger, alors, il n'y avait plus rien.
Et les femmes, quand elles avaient fini d'allaiter, savaient que de toute façon, elles n'allaient pas pouvoir nourrir leur môme, donc il fallait le balancer.
C'est horrible.
Et ils en étaient aussi à bouffer de la merde. Ils allaient autour des hôpitaux comme ça et on balançait la merde des pestiférés par les fenêtres. Et les gens ramassaient ça pour bouffer ça. Ils en étaient là.
Et ils devenaient malades, évidemment. Ils en mouraient.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais. Voilà, bon appétit à tous. Hein. Ça commence très bien, Jean.
Oui, c'est un bon démarrage.
C'est horrible, je sais même pas comment enchaîner en fait. Alors du coup, bon, les danseurs se multiplient au point que le maire, accablé par les mauvaises nouvelles, va tenter cette fois de contenir ce nouvel événement avec les notables de la cité. Les médecins, les curés, tous tentent de comprendre, mais ces danseurs qui meurent sur place de fatigue sont impossibles à arrêter.
Mais oui, ils dansaient nuit et jour pendant des semaines entières, les pieds en sang, cartilage apparent et tout, et ils en crevaient de crise cardiaque, à un moment, plus de 30 morts par jour. Mmh. Et effectivement, le maire, Andreas Dragenfels, se disait, mais c'est quoi cette connerie ? À un moment, il a organisé un grand conseil à la mairie en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui nous arrive là, c'est naturel, c'est surnaturel. Et les médecins disaient, non, c'est naturel, on ne connaît pas cette maladie, mais c'est naturel.
Bon, on va écouter la BO du roman, Jean Tellet. On vous a donc demandé de choisir des musiques pour illustrer votre livre. Vous avez donc choisi Pigalle, qu'on a entendu à l'instant, et une sarabande médiévale que l'on va écouter à présent avec un extrait de votre texte qui va tout de suite nous mettre dans l'ambiance.
«
danse strasbourgeoise est comme une eau qui s'infiltre partout parmi les témoins. Ce que les danseurs atteignent en perdent l'entendement et entrent tout aussitôt dans la ronde à leur propre étonnement. Face à la colère des curés, continuant de gueuler, nauséabondes, rondes de péché et des médecins estomaqués, d'autres, qui ont eu tort de s'approcher de cette rue, se voient pris de quelques mouvements irréguliers et de contorsions dans un bras, puis une jambe. Peu à peu, leur mal empire, et finalement aucun membre n'obéit plus à la volonté de ces contaminés qui se laissent aller, rejoignant le grand courant pour en augmenter le terrible cœur. L'autre connasse, arrogante, qui tout à l'heure dédaignait tout le monde, fait moins sa maligne dorénavant, en tortillant ses miches comme une dingue et montrant son cul à tous. Je me suis permis cette petite lecture, Gentelet, parce qu'il y a toujours ce franc-parler dans votre écriture. Cette épidémie de danse est une réaction à une grande détresse et vous y allez franco avec des mots à vous, quoi.
Ah bah oui, bien sûr, à ma façon, quoi, voilà, ouais. Oui. Et ce qui était marrant, c'est que les médecins, à un moment, se sont demandé ce que c'était. Et ils se sont dit, est-ce que c'est une danse de Saint-Guy? Mais une danse de Saint-Guy, c'est pas une danse, c'est des secousses nerveuses. Tandis que là, les gens dansaient vraiment. Ils dansaient des sarabandes, des rondes, dansent des cigognes, des gigues. C'était vraiment des danses collectives.
Et au départ, sans musique, surtout.
Et sans musique. Ouais. On sait qu'il y a une femme qui est rejoindre les danseurs en disant on n'a plus rien. Ouais. Allez, on danse. C'est notre corps, il nous appartient, on n'a plus que ça.
C'est comme un grand suicide collectif.
Mais oui, exactement. Et
très
c'est
particulier,
un truc unique. C'est jamais arrivé nulle part sur Terre avant 1518. C'est plus jamais arrivé depuis, quoi.
Place aux libraires, Gentelet, vous les connaissez dans cette émission. Le Canada, la France de l'outre-mer ou la Belgique, on commence par qui?
Québec, Canada.
Ouais. Allons-y, Jérémy Lagniel.
Oui, bien sur celle-là, Emmanuel, on doit lui donner. Teulet a eu du flair. L'anecdote en soi est tout simplement incroyable. On sent le plaisir de l'auteur dans l'écriture. On voit qu'il savait qu'il tenait quelque chose. On voit le sourire en coin avec lequel ça a été écrit. Comme si Teulet se disait « Je peux pas croire que personne est tombé là-dessus avant moi ». Par contre, au final, je trouve que le livre est un peu mince, parfois vulgaire, on vient de le dire. On se rappellera probablement beaucoup plus de l'histoire que du livre.
Mais ça, c'est le style, c'est la verve de Jean Teulet. C'est pas si vulgaire que ça.
Non,
enfin, vous utilisez
j'espère que non, grossier mais... peut-être, mais oui. Même sûrement. Mais vulgaire, c'est bon. Mais voilà, alors.
On part en Martinique.
Oui, c'est bien ça.
Allons-y, oui. Anne-Rosine Vosa, c'est à vous.
Alors en fait, ce livre, dès les premières pages, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé difficile la lecture parce que l'ambiance était mortifère, j'avais du mal à supporter. Et puis en fait, au fil des pages, je suis entrée dans la danse. Et j'ai été happée par l'histoire, mais surtout, parce qu'en fait c'est une histoire incroyable, mais c'est surtout votre humour qui a rattrapé le coup et qui sous-tend le texte du début à la fin et qui a permis de dédramatiser l'horreur. Donc j'ai bien aimé ce livre et je recommanderais vivement la lecture, ça
bien.
C'est sûr.
C'est gentil.
Conquise finalement, vous voyez.
Ouais, c'est vraiment gentil.
Petit problème de liaison, on s'excuse avec la Martinique. Déborah Damblon est en Belgique, qu'en pensez-vous?
Eh bien, moi, je pense, Monsieur Teulet, que vous avez une caractéristique qui n'est pas si courante de nos jours et dont moi, je vous suis éternellement reconnaissante. Parce que vous n'oubliez jamais de nous raconter une bonne histoire. Alors, une histoire horrible, bien sûr. Où est-ce que vous allez les chercher? C'est un autre débat. Mais c'est toujours passionnant. Et puis, il y a un début, et puis il y a des rebondissements, et puis il y a une fin. Enfin, il se passe des trucs. Et vraiment, vraiment, moi, je trouve que se plonger dans un roman sans plus penser à rien d'autre, eh bien, parfois, ça fait infiniment du bien.
Bon voilà, vous avez séduit nos libraires Gentelet une nouvelle fois. Comme vous l'écrivez d'ailleurs, c'est du grand n'importe quoi cette histoire. On va réunir les danseurs sur une place, avec de la musique pour le coup, et des enfants en guise de chiens qui rameutent les foules, qui les fait avancer. On va leur donner aussi à boire et à manger sur l'estrade. C'est difficile de les nourrir parce qu'ils sont en plein mouvement. Et comme ils ne s'arrêtent jamais, ils vont se répandre dans la rue.
Ouais.
Uriner,
et voilà,
et déféquer,
bien sûr.
C'est horrible.
Et oui, et puis ils avaient mis comme sur un dance-floor derrière la cathédrale, sur la place du marché aux chevaux, avec des barrières qui barraient les rues qui donnaient là-dessus. Et il y a eu un problème, c'est que les mendiants de la ville qui s'approchaient disaient mais c'est quoi là-bas, on file à bouffer à des gens? Et oui, parce que ce sont des danseurs. Et les mendiants, oh, tout d'un coup ils sont mis à gigoter, mais qu'est-ce qui m'arrive, je danse pour avoir à bouffer. chauffer, tout le monde se mettait à danser. Ouais. Mais cette ville devenait complètement folle, parce que en plus, ils s'étaient pris d'une parano, ils étaient persuadés que les Turcs allaient les attaquer.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, les Turcs, ils sont jamais arrivés. Moi, je me suis amusé à taper Strasbourg et Turc. Je suis tombé que sur une liste de restos kebab. Donc finalement, les Turcs ont fini par arriver, mais pour filer des kebabs aux gens, quoi, voilà.
Mais c'est vrai que les Turcs, ils ont bon dos, on va pas tout raconter, ouais. Mais on va leur mettre sur le dos certaines actions. Et le maire dira, après tout, on peut bien les accuser à tort, les Turcs, on n'en a jamais vu dans la région.
Et voilà, et je sais même pas si ça existe, les Turcs.
Bon, on va prendre des mesures, hein. Ce fameux maire va essayer de prendre des mesures. Il va confiner les danseurs chez eux, interdire toute musique. Il y a un échange d'ailleurs lors de ce rassemblement qui ressemble à un conseil municipal. Le maire veut imposer des amendes. Mais on lui dit, mais plus personne n'a d'argent. Alors voilà. Il propose de la prison à l'eau et au pain sec. Ce à quoi répond un conseiller, de l'eau et du pain sec, mais il ne rêve que de ça.
Exactement.
Donc on s'en sort pas.
Non. Et à chaque fois qu'il a pris une décision, le maire, pour essayer de juguler cette danse de dingue, tout a foiré, quoi. Ouais, et au bout d'un moment, il a filé l'affaire à l'évêque, qui lui s'en est occupé,
voilà.
Mais alors de façon bien radicale.
Heureusement, effectivement, que les religieux vont trouver une idée pour sortir de cette situation inextricable. Ouais. On va arrêter là, parce que sinon on va tout raconter.
Ouais.
Bon, vous restez avec nous.
Hein ? Ah oui.
Merci Jean Tollet.
Je vous en prie, quand je peux faire plaisir.
Quand je peux rendre service au moral de tout le monde. Entrez dans la danse, c'est votre nouveau roman paru aux éditions Julliard. Vous restez avec nous, vous êtes le grand témoin de l'émission aujourd'hui. On part au Québec dans un instant, en pleine nature, avec un reportage inédit autour du nouveau roman de l'auteur Lise Tremblay. Il sera question de notre rapport aux animaux et de la condition animale. Là aussi, vous allez réagir avec modération, je l'espère, surtout sur les réseaux sociaux, si vous voyez ce que je veux dire. Dès qu'il est question de la condition animale, c'est compliqué, mais il faut resituer dans le contexte. Bref. Je vous laisse la surprise. Voici le tout nouveau titre d'Eddie de Préto que nous soutenons dans la librairie francophone. On vous a déjà passé Kid et voici donc en avant-première un nouvel extrait de son premier album à venir.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Les regards, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en donne, je crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en donne, chaque fois que je tombe croque. Love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car ce grillé est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minerve. Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour fétiller en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds et à pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. J'ai le cœur en dame, je crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Sauf si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, chaque fois que je tombe croque. Love,
si j'ai pas la cote. Comme ça je me mens, car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces, sans les jeux de baise à la ramasse. Il me manque ce petit tac de sursoir pour que ça marche, en attendant je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Je crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, 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 je crois en tout ce qui code. Comme, comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
Le tout nouveau titre d'Edith de Préto, Random, en avant-première dans la librairie francophone. Et on part tout de suite au Canada pour un reportage en pleine nature avec l'écrivaine Lise Tremblay. C'est le son du monde de la semaine, grand format.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Bonjour Lise Tremblay.
Bonjour monsieur.
Vous pouvez m'appeler Emmanuel.
Je vais le faire, sans problème.
Oh, quand même, on se connaît maintenant, par les ondes.
Oui, ben par les ondes, je vous écoute de temps en temps, pas tous les, mais souvent quand même.
Ah ben j'espère,
et
oui.
Puis j'ai appris des choses et j'ai lu des livres grâce à votre émission.
Très
beaucoup
bien.
De livres.
Alors nous sommes ici au cœur du Québec, à 30 minutes de Montréal, 30-40 minutes, à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans cet espace immense dédié à la nature. L'écomuséum, il y a ici 115 espèces d'animaux vivants, indigènes de la vallée du Saint-Laurent. Alors on y parle d'éducation, de recherche, c'est vraiment ça le centre des préoccupations de ce parc zoologique qui est ouvert, figurez-vous, Lise, 364 jours par an. Il ne ferme que le jour de Noël.
Ah bon, ça je ne savais pas. C'est la première fois que je viens. Moi, je vis dans la nature, mais près de chez moi, il y a...
Il y a des enfants qui courent.
Oui, il y a des enfants qui courent. Mais près de chez moi, il y a un endroit où on ramasse, où on soigne les oiseaux de proie qui sont malades. C'est un peu le même style d'idée, mais là-bas, c'est juste des oiseaux.
Alors, on va aller voir les loups, on va aller voir les grizzlies aussi.
Oui, mais il n'y a pas de grizzlies au Québec.
Non, ce n'est pas des grizzlies, ce sont
des
ours. Non,
il y a des ours bruns puis il y a des ours noirs. Il n'y a pas de grizzlies. Les grizzlies sont dangereux. Les ours bruns et les ours noirs ne sont pas très dangereux. Au printemps, il faut faire attention. Mais, et aussi, si on rencontre une mère avec les petits, et j'ai un de mes amis à la campagne qui dit, faut pas que tu rencontres une femelle. Mais j'ai dit, comment tu fais pour pas la rencontrer? Lui, c'était comme, tout va bien, mais faut pas que tu rencontres une femelle, mais il y a pas d'indice. Et si la femelle vient de mettre bas, elle est très, très, très agressive pour protéger ses petits. Mais sinon, c'est pas dangereux du tout.
Alors, vous avez publié « L'habitude des bêtes » aux éditions Boréal. C'est un roman où les humains et les animaux se côtoient de très près. Vous croyez-vous en la symbiose entre l'homme et l'animal?
Je ne sais pas si c'est une symbiose, mais moi, je sais que je vis sur leur territoire à eux. Moi, je ne suis pas chez moi où je vis. C'est-à-dire que je vis au pied d'une montagne et c'est très sauvage. C'est moi qui dérange. C'est comme ça que je vois ça. Est-ce qu'on est en symbiose? En tout cas, on vit proche, puis je vis près d'un parc national, puis les animaux sont très protégés dans le parc. Les animaux sont pas capables de lire la pancarte ici, le parc arrête. Ça fait qu'ils viennent chez moi, parce qu'ils lisent pas en pancarte que là, ils ont pas le doigt, non. Ils viennent. Donc, je vois des orignaux, je vois des ours, je vois... plein les petits animaux qui sont de la forêt boréale. Là.
Voilà, il y a des panneaux qui nous indiquent. Donc là, les oies. Tiens, il y a des oies d'ailleurs dans votre roman.
Oui, ça,
et puis les loups, voilà, c'est par là, les loups. Il y a beaucoup question des loups dans votre roman, Lise Tremblay. Ah, les loutres.
J'adore ça, c'est mon animal préféré.
C'est vrai, pourquoi?
Parce que ça flotte.
Ça flotte pas,
ça
nage.
Ça n'a pas beaucoup de poids. C'est très joueur, des loutres.
Oui, hein? C'est vrai.
Très, très joueur. J'aime beaucoup ça. Les loutres, c'est des manteaux incroyables. La fourrure des loutres, ça fait des super beaux manteaux. Mais oui, c'est
vrai. Il faut pas dire ça, Lise.
Non, non, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Et c'est des manteaux qui sont assez légers et qui résistent à l'eau.
Bon, vous vous arrangerez avec les associations de qui luttent pour la condition animale. En tout cas, un animal, Lise Tremblay, ça peut changer la vie d'un homme. C'est le cas de votre personnage, Benoît, qui confie que dans sa vie, il n'a pas su être un homme bon. Sauf qu'un jour, il s'est passé quelque chose pour lui.
Oui, ben, c'est un dentiste qui va arracher des dents dans le Nord parce que c'est plus payant. C'était pas quelqu'un de très, très gentil. Et un moment donné, l'avion est très en retard parce qu'il y a une grosse tempête. Et là, ils viennent le rechercher plus tard pour prendre l'avion. Et il y a quelqu'un, le monsieur qui les amène à l'avion, lui donne un petit chiot dans les mains. Et il garde le chien, et le chien va le changer. Et là, on est devant des vrais loups.
Alors, c'est incroyable, parce qu'au même temps que vous parlez, il y a un loup, mais énorme.
Ouais, il est gros, lui.
Qui est très, très captivé par ce qu'on est en train de faire.
Oui, alors, mais ils connaissent leurs amis.
Ouais, sauf qu'il va essayer de passer, non?
Non, là. Non, mais... C'est très rare, puis ils sont habitués ici, puis c'est sous tension, hein, regarde, c'est
marqué. Oui, il y a des câbles électriques.
Il n'y a pas de danger. Ouais. De toute façon, il n'a pas l'air méchant. Il est très beau, hein?
Il est magnifique. C'est incroyable.
Il est en train de nuire.
Blanc cendré, ouais. Très étrange. Alors du coup, il se retrouve avec ce chien, votre personnage, et puis il dit « J'avais été heureux, comblé, odieux, je le savais. En vieillissant, je me suis rendu compte, mais il était trop tard. La bonté m'est venue après, je ne peux pas vous dire quand exactement. »
Mais je pense que dans ce personnage-là, il y a aussi ma propre réflexion sur le temps, sur l'âge et sur comment... Puis c'est très correct que les jeunes soient comme ça, mais quand on est jeune, on se sent invincible et on se sent... on est les rois du monde, puis c'est vrai qu'on l'est. Dans ce personnage-là, il y a une réflexion là-dessus, sur le fait qu'il était riche, qu'il avait un hydravion, qu'il pouvait dominer le monde. Mais c'est ce qu'il croyait qu'il dominait le monde. Mais il se rend compte en vieillissant que non, il domine pas le monde et que c'est le monde qui le domine.
On entre dans une cabane, là. Une sorte de cabane au Canada, Lise Tremblay.
À l'abri pour regarder les loups.
Pour regarder les loups qui sont juste face à nous avec une grande baie vitrée. Là, on est un peu plus protégés. Là, pour le coup, ils peuvent pas arriver. Et les loups... les loups, c'est vrai qu'il se passe des choses quand même dans votre roman autour des loups, Lise Tremblay, parce que dans ce village où se situe votre histoire, les loups sont de retour. Et ils perturbent l'ouverture de la saison de la chasse.
Mais je pense qu'ils n'ont jamais été partis vraiment. Mais c'est vrai... Et ça, c'est vrai, là. On est dans une période au Québec où il y a beaucoup de loups.
Alors, il y a eu un scandale, d'ailleurs, au Canada, à propos, justement, de la fourrure de coyote. Et vous dénoncez, vous, dans votre livre, la capture des loups au collet. Et c'est vrai qu'on capture ces coyotes au collet pour faire des fourrures sur les parkas. Et du coup, la condition animale, évidemment, est bafouée.
Mais ça, tout à l'heure, j'ai parlé du manteau de loup. Je suis pas contre le fait qu'on utilise l'animal, mais il faut le faire honnêtement. Et les collets, c'est méchant, c'est souffrant. L'animal ne meurt pas tout de suite, et souvent, il meurt de faim. Et ça, je trouve ça épouvantable.
Oui, il est épuisé, et puis il est pris au piège. Oui.
Voilà, ça, c'est épouvantable, et ça, je suis contre ce genre de choses-là. La chasse, à la limite, la chasse à l'orignal, ça se fait avec un fusil, et l'animal meurt. Mais faire souffrir une bête, c'est épouvantable. Mais quand la chasse est faite de façon honnête, j'ai aucun problème avec ça.
Il y a notre ami le loup qui revient, regardez.
Non, mais c'est vraiment joli, puis un beau soleil, c'est très, très beau. Un peu froid, mais bon.
Un petit peu froid. Il est très beau, ce coyote. Hein? Court sur pattes, mais...
Un peu gras.
Un peu gras, oui. Jolie fourrure. Hein?
Oui.
Dans votre roman, Lise Tremblay, tous vos personnages sont dans une transformation physique ou intérieure. Il y a la fille de Benoît qui souffre d'un trouble de l'identité de genre, une vieille femme qui veut contrôler sa fin de vie, le chien d'âne qui passe de l'autre côté puisqu'il est malade et qu'il va mourir, il est vieux. C'est un livre sur le temps qui passe?
Ben, je pense que oui. Je pense que c'est un livre qui est... j'ai eu 60 ans. C'est le temps qui passe, oui. Puis le temps qui reste, surtout, je pense... Quand on vieillit, c'est pas tellement le passé comme le temps qui reste et ce qu'on veut en faire. C'est peut-être très cliché, mais c'est vrai qu'on se sent comme ça. Et ce livre-là, c'est une réflexion là-dessus aussi. Moi, je pense que je suis une meilleure personne que quand j'étais jeune. Je pense que je suis devenue bonne avec le temps.
C'est vrai?
Oui. Mais avant, j'étais peut-être pas si gentille que maintenant.
Bon, nous allons écouter à présent deux de nos libraires qui ont lu votre roman, Lise Tremblay. Claire Renaud est en Suisse. Claire, quel est votre avis ?
Oui, alors moi j'ai trouvé que c'était un très beau livre. C'est une ode à la nature et à l'amour des bêtes. Et j'avais envie de me retrouver avec Benoît dans sa maison, à contempler le lac avec une bonne bouteille. J'ai aimé la mélancolie de cet homme vieillissant qui se sent meilleur avec l'âge. Et puis cette solidarité qu'il y a aussi entre vos personnages principaux, j'ai trouvé ça très beau. Et notre fin de vie est en grand questionnement. Et j'ai trouvé que vous avez su le faire avec beaucoup de tendresse.
Bien, on va partir du côté de la Belgique, depuis le Canada. Le Québec cape sur Déborah Damblon dans sa librairie. Vous êtes d'accord, Déborah ?
Ben oui, moi si je devais définir ce roman d'une seule formule, je dirais qu'il fait du quotidien de l'universel. Et c'est à la fois très très doux et puis très profond aussi. Et puis, je trouve en plus que pour les Européens que nous sommes, le recul géographique et la description d'un paysage qui nous est peu familier, eh bien, il adoucit encore l'impression de l'ensemble. Et ça le rend encore plus délicieux.
Lise Tremblay dans la librairie francophone pour cette émission ici à l'Écomuséum, un parc zoologique à 30-40 minutes de Montréal, dans un parc immense, un très bel endroit avec un pont de bois.
Regarde, regarde l'aigle.
Ah oui, oh là là, juste à côté. Ouais.
C'est magnifique. Hein. Ah ça c'est bien, là. C'est beau, beau, beau. Et ça c'est assez rare quand même.
Avec la tête blanche et le corps noir.
Ouais, c'est brun foncé.
Brun
mettons,
foncé, ouais.
Et un beau bec orange. Non, c'est magnifique. Ouais, ouais. Puis il est très gros.
Très gros. Il est juste sur le rocher qui est à côté de nous, parce qu'on passe sur un pont de bois qui sillonne comme ça, pont de bois qui sillonne et qui fait un parcours dans ce parc zoologique. Et l'aigle qui est là, regardez Lise.
Ah non, il est très gros, magnifique, vraiment très beau. Et puis il est pas content. On l'a dérangé.
Le cycle normal de la nature fait que la population animale se régule d'elle-même. Ça aussi, vous en parlez, Lise Tremblay, dans votre roman. En tout cas, vos personnages racontent cela. C'est très important, finalement, de se retrouver avec des animaux qui arrivent à s'autoréguler parce que, du coup, ça empêche les hommes de faire des bêtises.
Oui.
Enfin, ça devrait, en tout cas.
Oui, puis en même temps, c'est une réflexion sur la vie aussi, sur l'acceptation de la mort. J'ai un ami qui vit avec quelqu'un de très malade et qui m'a dit un jour, me préparer à sa mort, c'est me préparer à la mienne. Et puis ça m'avait assez choquée. Et c'est une phrase qui a beaucoup participé à l'élaboration de ce roman-là, bizarrement. C'est comme, c'est normal de mourir quand on est vieux et c'est normal d'essayer de se préparer parce que c'est inévitable. C'est pas le fun de mourir, mais vu que c'est inévitable, c'est vrai que je pense que c'est mieux de se préparer. Essayez de se préparer le mieux qu'on peut.
Ça vous fait peur, vous, ou pas? Alors qu'on rentre dans l'écomusée.
Mais la mort, être mort, ça ne me fait pas peur parce que tu ne sais pas que tu es mort. Arrêter de vivre, c'est un peu plate. Là. Mais moi, ce qui va être terrible, c'est quelque chose de très clair. Puis c'est extrêmement égoïste. C'est pas tellement les gens. C'est plus voir la nature. Et c'est terrible de dire ça.
C'est ça qui vous fait peur, vous.
C'est ça que je trouve épouvantable. C'est de plus voir les fleurs, de plus voir la nature, de plus être en contact avec la nature, plus que de quitter les gens.
Ouais. Alors c'est drôle qu'on termine là-dessus, Lise Tremblay, parce que ce roman, j'allais le dire, c'est un roman sur la mort, c'est un roman sur le temps qui passe, on en parlait, mais c'est un roman sur la mort qui n'est pas négatif, qui finalement ne nous angoisse pas. Mais tout au long du livre, on ressent la mort et la disparition.
Oui, c'est sûr, j'ai perdu mes parents il y a 2-3 ans, mais je ne crois pas...
C'est lié à ça, alors.
Probablement, mais je ne crois pas que ça soit angoissant. Puis je pense que c'est un roman sur la vie aussi. Ouais. Je pense ça, et je pense que c'est un roman très doux. En tout cas, j'ai essayé de le faire doux. Doux, doux, doux.
Un roman doux et entouré d'animaux. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici, au parc zoologique, à l'Écomuséum du Québec. Merci, Lise Tremblay.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Mais moi aussi, j'étais ravi de trouver cet endroit avec vous, de le découvrir avec vous. Et votre roman, L'habitude des bêtes, est paru aux éditions Boréal.
Merci.
À bientôt, Lise. À suivre la chronique des libraires, tous ensemble, et un essai sur le narcissisme qui peut nous sauver et même transformer notre rapport aux autres. Avant cela, on part en Afrique à présent avec le chanteur sénégalais Ismaël Lo. Voici Dibi Dibi Rek dans la librairie francophone.
Dibi Dibi Rek, ah Dibi Dibi Rek, ah Dibi Dibi Rek, Dibi Dibi Rek. Ah, dibi dibi re, ah, dibi dibi re. Yangi degarlu wante manoko, bul sok bayil ñu jëliko. Yangi di rok balé bu ñu taxawal, ah, ndax yow lekkoto. Yangi bëgg dé ndax yow nanato bul so bay ñu jëli ko ndax mo lay maj do dibi dibi rek ah dibi dibi rek ah dibi dibi re dibi dibi rek ah dibi dibi rek ah dibi dibi re.
Ismaël Lo avec Dibi Dibi Rek, titre de 1994, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble, pour les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec le désormais traditionnel coup de gueule de Jérémy Laniel au Canada. Jérémy qui est très romantique aujourd'hui apparemment.
Mais oui, vous le savez, Emmanuel, les libraires, hein, on est des paradoxes sur deux pattes. On déteste la commercialisation des grandes fêtes. Mais bon, nos ventes en profitent, on va se le dire. Mais lorsqu'on reçoit en librairie des mises en place pour la Saint-Valentin, des livres beaucoup plus pornographiques que littéraires, oh, pourquoi pas hein, le Kama Sutra, ces choses-là, c'est peut-être le moment de l'année, à mon avis, pour conseiller les plus beaux romans d'amour qu'on a dans nos rayons. Ouais. L'amant de Lady Chatterley de Lawrence, Madame Bovary de Flaubert, Vénus Erotica d'Anaïs Nin, pourquoi pas le Tropique du Cancer de Henry Miller. Et si on veut faire un devoir de mémoire, Emmanuel, plongeons dans le désir de Mathieu Riboulet. Pourquoi pas?
Oui,
arrêtez-moi avec vos mises en place pornographiques, sincèrement.
Pornographie.
On a soupé.
Bah, le Kama Sutra, c'est pas pornographique.
Oui, mais c'est enfin, inutile. C'est tout le monde l'a déjà à la maison.
C'est quoi, Jean-Tolé?
C'est de la gymnastique.
C'est de la gymnastique. Bon, très bien. On vous a entendu, Jérémy Laniel. Après, il y a autre chose que Madame Bovary, Lady Chatterley et tout ça. Mais bon. Et puis, restons francophones. Hein, en Suisse, un coup de cœur romantique, hein, Claire Renaud, non?
Alors, je sais pas s'il est romantique. Ah bon. C'est un roman, en tout cas, foisonnant, très, très bien écrit et plein d'humour. Mmh. Alors, en fait, c'est un conte. sous forme de puzzle. Et quand vous pensez reconstituer une fiction, vous tombez dans une autre fiction, tellement il y a de personnages qui sont d'ailleurs très attachants. Et le plaisir surtout, c'est que vous ressentez que l'écrivain, il s'est bien amusé à l'écrire et nous, on s'est bien amusé à le lire.
Bon, d'accord. C'est pas très encourageant comme ça, mais ça a l'air bien. L'impératrice des Indes aux éditions de l'Air. Merci Claire. Déborah Damblon pour la Belgique. Un coup de cœur pour la passion de l'orthographe.
Mais oui, voilà Emmanuel. Donc permettez-moi une question indiscrète. Est-ce que vous avez une bonne orthographe?
Oui, bien sûr. Ah bah oui. Je fais très attention quand j'écris un courriel et tout. Ah, je relis toujours les choses. Je déteste même envoyer un SMS avec des fautes.
Eh bien, je n'en attendais pas moins de vous. Mais quoi qu'il en soit, je vous recommande quand même La Convivialité, parce que c'est en même temps, c'est un beau livre, c'est un essai, c'est même une pièce de théâtre, figurez-vous. Et ça va vous faire voir l'orthographe autrement. Et pour les gens comme nous qui adorons les mots, c'est vraiment du pur bonheur, mais figurez-vous, c'est aussi une fameuse remise en question.
Ah oui, ça, je n'en doute pas. Et c'est aux éditions textuelles. Merci Déborah. On termine avec un coup de gueule en Martinique, avec le coup de gueule d'Anne-Rosine Vosa.
Oui, parce que bien qu'étant département français, commercialement, nous sommes considérés comme export, donc étrangers, et notre approvisionnement se fait par le biais de multiples intermédiaires, et nous avons des délais qui sont très longs. Mmh. Alors parfois, il y a des efforts qui ont été faits, mais généralement, il faut compter 15 jours minimum pour être approvisionné, et donc voilà, ça pose des problèmes, notamment au niveau des nouveautés, on ne les a pas tout de suite, donc c'est compliqué. Et de l'autre, en sens inverse, au niveau des retours, alors qu'en France métropolitaine, les libraires sont autorisés à faire des retours pour les livres qui ont entre 3 mois et 1 an sans autorisation, nous sommes soumis à une autorisation. Voilà.
C'est très injuste. Effectivement, ouais. Ça s'appelle la continuité territoriale, normalement.
Voilà, normalement.
Et on va dire justement à la France qu'il est tout à fait inacceptable d'arriver de Martinique, de Guadeloupe ou de Réunion et de se retrouver à l'aéroport parmi les vols étrangers avec les contrôles de douane, comme si on revenait du Guatemala, du Mexique ou d'ailleurs. Et ça, c'est un vrai scandale aussi.
Je confirme.
Voilà, merci. Voilà. On s'est défoulé. Merci Anne-Rosine Vosa. Voilà.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et nous allons devenir narcissiques le temps de cette séquence avec Fabrice Midal qui est avec nous, philosophe et auteur. Narcisse n'est pas celui qu'on croit, Fabrice. Le narcissisme, ce n'est pas de l'égotisme, ce n'est pas le culte de soi ni le nombrilisme.
Absolument. Moi, pendant longtemps, je pensais que narcissique, c'était une insulte. Puis, comme tout le monde, c'était être égocentrique. On explique que tout le monde est narcissique, en général, sauf moi, tous les autres le sont. Ouais. Et je trouvais ça un peu singulier. Je me suis rendu compte qu'au fond, cette condamnation n'éclairait pas et que peut-être elle culpabilisait les gens.
Alors rappelons quand même le mythe de Narcisse, parce que vous le racontez, choses qui sont assez fausses sur le mythe de Narcisse.
J'ai regardé le mythe de Narcisse, donc chez Homère, surtout chez Ovide.
Chez Ovide,
et aux surprises, Narcisse n'est pas amoureux de lui-même, il ne se reconnaît pas.
C'est ça.
Et tout le drame de Narcisse, c'est un mythe de la méconnaissance. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça dont nous souffrons aujourd'hui au XXIe siècle. Nous ne nous connaissons pas, nous n'avons plus le droit de nous rencontrer, et c'est pas par hasard que Narcisse est la fleur du renouveau. Eh ben, être narcissique, c'est laisser la fleur de la vie renaître en soi.
Alors, juste préciser que Narcisse, en fait, se regarde dans une fontaine, dans l'eau.
Oui.
À l'époque, il n'a pas le droit, enfin, il peut pas se regarder, il n'y a pas de miroir, de smartphone et tout le reste. Donc, en fait, c'est la première fois qu'il se voit. Et il tombe sur ce visage magnifique, et il tombe amoureux de ce visage-là.
Oui.
Jusqu'au moment où il réalise que c'est lui. Bon.
À la toute fin, il réalise que c'est lui, et il est désespéré. Évidemment, c'est un mythe. Et moi, ce que je trouvais intéressant, évidemment, c'est pas une histoire vraie, c'est un mythe qui a nourri toute l'histoire de l'Occident.
Alors, vous dites aussi, Fabrice Midal, qu'on est plus tolérant avec les autres qu'avec soi-même. D'ailleurs, on a tendance à ne pas croire ceux qui nous complimentent.
Ah oui, on a beaucoup de mal. Par exemple, un jour, j'oublie le café. Je m'entends me dire à moi-même, mais quel con t'as oublié le café. Je serais avec un ami, je lui dirais, mais c'est pas grave, on va aller acheter du café, c'est pas grave que t'aies l'oublié. On est souvent comme un procureur pour soi-même. Et donc, mon livre essaye de répondre à tous les gens qui se sentent coupables, qui ont l'impression de pas faire assez et qui ont l'impression aussi de ne pas être à la hauteur. Et donc, soyez narcissique, c'est vous êtes à la hauteur de beaucoup plus de choses que vous croyez. Voilà.
Vous allez à contre-courant, en fait, des analyses de la société actuelle définie comme la plus narcissique de l'histoire, avec notamment les réseaux sociaux, les selfies, toute cette mise en valeur personnelle qui laisse supposer que chacun aime exposer son image et sa vie. Mais vous faites la différence. Vous dites ça, c'est pas du narcissisme. C'est de l'égotisme.
La fille d'un ami, elle lui envoie des photos et elle demande à son père « Est-ce que je suis jolie pour les poster sur les réseaux sociaux ?» Ben lui, il a très bien compris qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle ne se photographie pas, elle ne se monte pas dans les réseaux parce qu'elle est amoureuse d'elle-même, mais justement parce qu'elle ne s'aime pas. Et si vous dites à cette jeune fille qu'elle est narcissique, vous la rendez encore plus mal. Si vous lui dites « tu veux te sentir belle », c'est légitime, mais c'est pas en faisant des photos sans arrêt que tu vas réussir à te sentir belle. Peut-être qu'il y a une autre manière qu'on peut réussir de te répondre, ça va aller mieux. Donc je suis frappé que la description que notre société est trop narcissique ne rende pas compte de l'expérience. Et on confond le narcissisme et la vanité.
On va écouter un extrait de votre livre, la lecture d'un extrait de votre livre, sur la musique de Benjamin Britten avec Narcisse, extrait de Métamorphose d'après Ovid, opus 49 pour hautbois et piano. Et c'est Jean Tellet qui va lire face à vous.
Narcisse, mon modèle, n'est pas une théorie. Il n'est pas un slogan, il n'est ni une méthode, ni une recette, il n'a pas de mode d'emploi. Il est une image que nous avons à habiter par une démarche volontaire, une musique qui guérit en remuant quelque chose en nous, en nous poussant à aller plus loin pour identifier ce quelque chose et l'aider à grandir. Il n'est pas un souhait qui aurait pour effet de nous terroriser. Sois heureux, fais-toi des amis, détends-toi. Mais une invitation à se faire confiance pour s'engager doucement sur la voie de la transformation, de l'accomplissement.
Fabrice Midal.
Ouais, c'est très beau d'avoir choisi. Enfin, merci pour la lecture.
Et puis, content.
C'est très beau. C'est très beau d'avoir fait entendre ce morceau de Britten.
Ouais,
ce qui m'a beaucoup nourri dans mon travail, qui semble comme ça provoquant, c'est évidemment comment tous les artistes, surtout depuis la fin du 19e siècle, de Rilke à Mallarmé, ont sans arrêt pensé ce Narcisse exaucé.
Ouais. Et Caravage aussi.
Oui, Caravage, j'étais au 17e siècle, bien sûr, ouais. mais à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a un grand nombre de
beaucoup
poètes,
d'artistes, oui, que vous citez d'ailleurs.
Oui, qui voient en Narcisse la possibilité de surmonter la déshumanisation de notre temps et la possibilité de se retrouver.
Et Rilke, qui est très impressionné d'ailleurs par les poèmes de Paul Valéry sur Absolument. Narcisse, et qui rencontre Paul Valéry comme ça dans le Valais, je crois, en Suisse.
C'est ça.
Ils se retrouvent tous les deux et ils parlent, au lieu de parler de poésie, ils parlent de Narcisse.
Oui, je trouve que c'est je suis content que vous citiez cette anecdote. C'est quand même à des moments assez rares de deux poètes qui se rencontrent. C'est une rencontre, un après-midi qu'ils vont passer, qui pour tous les deux a été un des grands moments de leur vie. Et de quoi ils parlent du narcissisme.
Avant de parler d'amour, on va laisser la place à deux de nos libraires, Fabrice Midal. Vous allez voir que l'amour aussi dépend du narcissisme. On commence avec La douceur de Claire Renaud, qui est en Suisse. Claire.
Oh, c'est gentil, Emmanuel. Moi, j'ai beaucoup aimé votre lecture du mythe, parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'ai cru qu'il était tellement amoureux de lui qu'il tombait dans l'eau. Donc, votre livre, en fait, il nous remet le mythe dans le contexte et je pense qu'il va aider beaucoup de gens, dont moi aussi. J'ai juste envie de vous dire, des fois, facile à dire, mais pas à faire, parce qu'il y a des jours où c'est vraiment difficile de s'accepter.
Merci Claire. Voilà qui vous prépare à l'agacement de Jérémy Laniel au Canada. Jérémy.
Oui, Emmanuel, j'ai longtemps levé le nez sur ces livres de croissance personnelle où on apprend à trouver les gens, aux gens qu'ils sont, blablabla, ce genre de choses-là. Puis en me plongeant dans le livre de Fabrice Midal, bien, j'ai vite compris que mes craintes étaient fondées, qu'il s'agissait là de tout sauf un livre pour moi. Lorsqu'on croise des phrases comme « Néanmoins, il est bon que je sois, moi, mon meilleur ami », bien, cela me passe 15 pieds par-dessus la tête, je suis désolé. Ça grouille de citations de Nietzsche, Baudelaire, Mallarmé, Michaud, on l'a dit, comme pour nous détourner l'attention qu'on est en train de se frapper à un immense discours du jeu, bref, pas pour moi.
Bien. Bon, il n'a pas du tout. Vous n'aimez pas du tout ce genre de livre. On a bien compris. Fabrice Midal, on va parler d'amour parce que vous expliquez que se connecter à soi, c'est aussi apprendre à aimer les autres. Dans votre livre, il y a tout un chapitre sur l'amour que l'on porte aux autres. On aime sa compagne, son compagnon, son frère, son meilleur ami, voire un collègue de travail qui devient ami, et on les aime comme ils sont, dans un amour durable, détaché de la passion, et pas toujours d'ailleurs avec la même intensité, car parfois ils nous contrarient, ils nous blessent, nous braquent. À un certain moment, on ne les supporte plus, mais on les aime quand même.
Bah, parce que mes amis, j'arrive à les aimer, je vois très bien leurs difficultés, leurs défauts, mais je m'en fous, je les aime comme ça. Et aujourd'hui, il y a comme une coupure. On a l'impression que si on écoute c'est horrible, on est égotiste, il faut être ouvert aux autres. Mais cette opposition n'a pas de sens. Je suis ouvert aux autres en fonction de ce que j'entends, en fonction de comment je me respecte. Au fond, on a l'impression des fois que l'amour, c'est comme un gâteau. Si j'en prends une part, c'est autant que je vole aux autres. Mmh. Mais l'amour n'est pas un gâteau. C'est pas parce qu'on va s'écouter et se respecter qu'on va moins aimer les autres. Au contraire, à la mesure où je me rencontre et j'écoute ce que je sens, ouais, je peux mieux savoir ce que les
c'est
autres
ça.
vivent.
Aimer avec son cœur et pas avec la raison. Oui. Ne pas réfléchir, mais ressentir au plus profond de soi des choses, oui, pour l'autre. Et c'est comme ça qu'on les aime durablement, oui, quoi qu'ils fassent et quelle que soit la situation.
Absolument.
D'accord. Juste une dernière chose, Fabrice Midal. Que fait-on quand on n'aime pas notre image physique et morale, quand on... Quand on se trouve moche et bête, qu'est-ce qu'on fait, docteur ?
On commence déjà par se rencontrer. Par exemple, si on a trop de poids, on se voit sur la balance, on veut maigrir. Si on commence par dire « Ah, qu'est-ce que je suis laid, je suis vraiment trop gros, il faut que je maigrisse », qu'on a tendance à faire parce qu'on nous a éduqués, on n'a aucune chance de maigrir. Si on se dit au contraire « Je vais essayer de voir par où je peux entrer en rapport avec mon corps », ça, c'est beaucoup plus encourageant de changer.
Bon, ça, et donc, c'est pour maigrir, d'accord. Par exemple, mais si on se trouve moche toute sa vie ?
Eh bien, il faut voir par où on peut se trouver beau.
D'accord.
Et ça... Tout être humain a une dimension de beauté. Par exemple, moi je suis très frappé par Rembrandt, qui a fait plus d'une centaine d'autoportraits. Dans chacun des autoportraits qu'il fait, on voit bien qu'il n'est pas du tout égotiste, il n'est pas du tout obsédé par lui-même, mais il montre quelque chose de la vérité humaine de chaque être humain. Il est libéré d'une image idéale. Et on voit dans chaque portrait, même quand il est très vieux, très, très abîmé par le temps, qu'il y a quelque chose d'une beauté et d'une profondeur humaine. Et peut-être être narcissique, c'est voir la dimension humaine de profondeur qui habite chaque être humain.
Bien. Jean Tellet, vous êtes d'accord avec tout ça ?
Ouais.
Vous allez devenir un peu narcissique ?
Je crois pas, non. Mais je comprends pas votre question, vous avez dit si je me trouve bête et moche, alors que vous n'êtes ni l'un ni l'autre.
Non, mais ça, je parlais pas de moi.
Ah non, pardon, autant pour moi.
Moi, j'aime beaucoup ce que je suis. Je suis intelligent, beau,
mais
tout
oui,
ça.
Mais oui, je trouve.
Il faut rester comme ça.
Enfin, bien sûr.
Moi, je m'adapte, je lis les bouquins. Non, je plaisante. Bon, merci pour ce compliment au passage. Jean, merci pour votre présence. Fabrice Midal, merci. Je rappelle que votre livre « Sauvez votre peau, devenez narcissique » est paru aux éditions Flammarion. À vous qui nous écoutez à travers le monde de vous faire une opinion.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le duo franco-belge Lisa, composé de Lisa et de Vincent Liben, avec un extrait de La Cavale.
Collé, serré contre toi, rien ne pouvait m'arrêter. Et j'en voulais toujours plus. Collé, serré contre moi, c'est l'âge de tous les dangers. Car on en veut toujours plus. Toujours plus. Pour toi j'ai tout oublié, jusqu'au nom qu'on m'a donné. J'aurais quitté mon pays si tu me l'avais demandé. J'aurais laissé derrière moi ceux qui m'aiment, en qui je crois, juste pour me rapprocher, venir me perdre dans tes bras. Collé, serré contre toi, rien ne pouvait m'arrêter, et j'en voulais toujours plus. Collé, serré contre moi, c'est l'âge de tous les dangers. Toujours plus, toujours plus. J'avais menti sur mon âge pour te suivre dans les virages que tu prenais violent. Tu sais, moi je te trouvais sauvage. Quand pour toi je m'évadais, la cavale elle m'enivrait. Moi je courais pour un baiser, c'est là seulement que j'existais. Plus collé.
Lisa, La Cavale, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. N'oubliez pas la pastille vidéo en ligne tous les week-ends sur Twitter avec un conseil de lecture inédit face caméra. Merci beaucoup Jean Tellet.
Merci beaucoup.
Merci Fabrice Midal.
Merci.
À la réalisation Henri-Marc Mutel avec Éric Morin, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Julie Leclerc en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikkels avec Valérie Leput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, le grand voyage continue avec une escale créole, une escale au Togo, des livres de poche et le Suisse Bruno Pellegrino. Bon week-end, bonne semaine.